En République démocratique du Congo, la situation se gâte sérieusement pour la MONUSCO. Le gouvernement a demandé officiellement le départ de Mathias Guilman, le porte-parole de la MONUSCO. Christophe Lutundula Apala, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a écrit officiellement à la mission onusienne et dans sa correspondance, le chef de la diplomatie congolaise considère que les tensions actuelles entre la MONUSCO et la population seraient dues notamment aux déclarations indélicates et inopportunes du porte-parole de la MONUSCO. Le gouvernement considère que la présence de ce fonctionnaire sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO en vue non seulement du meilleur accomplissement du mandat confié à cette dernière. Et d'ajouter que le gouvernement appréciera-t-il beaucoup que des dispositions soient prises pour que Guilman quitte le territoire dans les plus brefs délais. Dans une interview en marge d'une conférence de presse le 13 juillet à Kinshasa, Mathias Guilman affirmait déjà que le déploiement d'une grande partie des ressources de la MONUSCO et de l'armée congolaise dans la lutte contre le M23 a des implications négatives sur les autres régions où opèrent d'autres groupes armés. Il avait répété le message de la mission onusienne qui insiste sur l'urgence de parvenir à la désescalade dans la crise du M23 notamment, pour lui permettre de se focaliser sur d'autres crises. Nous n'avons pas des capacités extensibles à merci. L'armée congolaise n'a pas des capacités extensibles à merci. Et nous n'avons pas, contrairement à ce qui semble parfois sous-entendu dans vos questions, des milliers de militaires qui ne font rien. Tout le monde est mobilisé, avait-il prétendu. La mission, expliquait-il, a déployé une bonne partie de ses ressources pour lutter contre le M23. Simplement, nous sommes mobilisés en ce moment. L'armée congolaise, comme nous, une grande partie de nos moyens, une grande partie de nos troupes est mobilisée par cette résurgence du M23. Et dans ce sens-là, évidemment, si vous prenez d'un côté des militaires et des équipements pour lutter contre le M23, eh bien vous allez voir des endroits donc où l'armée congolaise ne peut plus être présente de manière satisfaisante et où nous-mêmes, nos capacités vont être réduites. Et ce n'est pas la première fois que la MONUSCO tient ces propos, et c'est pour ça que la représentante spéciale a lancé cet appel au Conseil de sécurité, cet avertissement également. Il y a des avancées, des progrès qui ont été faits récemment dans l'Est de la RDC, qui sont menacés par le fait que nous sommes obligés à la fois, nous en tant que mission, mais aussi l'armée congolaise, nos partenaires de l'armée congolaise, nous sommes obligés de mobiliser une grande partie de nos moyens et de nos troupes sur cette crise du M23. Le plus urgent aujourd'hui, c'est de parvenir à la désescalade, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'au plus vite, cette désescalade se matérialise et qu'évidemment, régionalement, chacun donc joue un rôle positif pour mettre fin à cette situation. C'est important aussi pour les populations de l'Ituri, les populations qui vivent sous la menace à la fois du Codeco et des ADF, donc pas simplement les populations qui vivent sous la menace donc des M23. C'est aussi vrai pour toutes les populations qui vivent au milieu des groupes armés dans ces différentes provinces. Et les autres crises n'attendent pas. Et dans le même temps, il faut travailler à être le plus flexible possible pour démanteler donc les réseaux des ADF, les ADF qui sont disséminés, dispersés sous pression, et il faut continuer évidemment à exercer cette pression, et nous, on essaye d'être le plus flexible possible. Le 27 juillet, Kassim Diagne, représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO, avait également, au cours d'un échange avec la presse organisé par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, explicité la position de la mission onusienne sur le terrain du Nord Kivu par rapport au M23. Il a également prétendu les propos donc de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, devant le Conseil de sécurité suite aux nombreuses interprétations sur les réseaux sociaux. Nous sommes en diplomatie, en relations internationales et on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Elle a dit que nous sommes extrêmement préoccupés et nous faisons face à un groupe armé qui a des capacités qui ne sont pas les capacités d'un groupe armé normal. Cela veut dire un groupe armé qui a des missiles sol-air, avait-il donc dit, répondant aux questions des journalistes. Tout comme la France dans le Sahel et particulièrement au Mali, la MONUSCO continue de faire semblant de rien et de tourner autour du pot comme tout politicien occidentaux. En d'autres termes, en tentant de noyer le poisson, la mission de l'ONU, qui pour rappel, avec ses 1,5 milliard de dollars donc de budget, et un effectif déployé de plus de 23 000 personnes n'a jusqu'à présent pas réussi à sécuriser le moindre centimètre carré de territoire dans l'est de la RDC. Et c'est pour cela que la population congolaise se soulève pour demander le départ immédiat de la MONUSCO et non pas des propos des patrons de la mission. Car en effet, cela fait plus de 20 ans maintenant que les patrons de la MONUSCO tiennent des discours similaires qui servent seulement à endormir l'esprit des Congolais. C'est bien la passivité, l'inefficacité ou même la complicité de la MONUSCO dans l'instabilité de l'est du pays qui a mis en colère les Congolais et rien d'autre. Après le Burkina Faso, c'est au Niger que des organisations de la société civile créent une coalition contre la présence militaire française. Dénommée M62, cette fois-ci la nouvelle structure appelle à une manifestation nationale contre Barkhane le 17 août. Une quinzaine d'organisations de la société civile nigériane ont lancé mercredi un mouvement dénommé M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, en vue de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Considérant les multiples assassinats de nos populations civiles par la force Barkhane, chassée du Mali et illégalement donc présente sur notre territoire qu'elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, réitérons notre opposition donc à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ immédiat, ont écrit les organisations de la société civile, parmi lesquelles des associations de défense des droits de l'homme et des syndicats. Lançons la semaine de la dignité à compter de ce jour mercredi 3 août, marquant le 62e anniversaire de la date de proclamation de l'indépendance du Niger et engagerons à cet effet toutes les citoyennes et tous les citoyens à se constituer en comité citoyen pour la dignité dans les quartiers, les villages et les communes en organisant des initiatives de sensibilisation comme l'ont ajouté les organisations de la société civile. Elles ont en outre lancé un appel à tous les syndicats, les organisations de la société civile, les universitaires, les hommes des médias, les transporteurs, les agriculteurs, les éleveurs et les leaders religieux à se joindre à elles pour la défense et la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple dangereusement menacé. Elles ont aussi appelé donc à une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi 17 août 2022 à partir de 9h sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. La création du M62 intervient dans un contexte de redéploiement de Barkhane au Niger après la décision des autorités de transition maliennes et du peuple malien de mettre dehors les forces françaises et européennes. Depuis plusieurs semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger et ces derniers jours, des véhicules et camions de ces convois ont été impliqués dans des accidents de la route qui ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Mardi, le nouveau commandant de Barkhane, le général Bruno Baratz, a été reçu en audience par le président Mohamed Bazoum et dans un entretien à la presse, il a indiqué que 6000 conteneurs de Barkhane attendent encore d'être acheminés du Mali vers le Niger. Au Burkina Faso, donc, c'était un mouvement appelé M30 qui a également né pour se soulever contre la France. Ce mouvement avait pour objectif, donc selon les initiateurs, la lutte pour la rupture des accords de coopération avec la France. Ainsi, le M30 a prévu, avant même son lancement officiel, une marche meeting pacifique le 12 août 2022 sur l'ambassade de France au Burkina Faso pour demander le départ de l'ambassadeur et la fin de la politique française en Afrique. Et cette démarche concerne également l'ensemble du territoire national. De plus en plus de coalitions anti-France sont en train de naître dans les quatre coins du Sahel pour se dresser devant la France, qui n'a visiblement toujours pas compris que l'Afrique ne veut plus d'elle. Ces coalitions vont s'agrandir de plus en plus et si le général de Barkhane pense pouvoir acheminer calmement les 6000 conteneurs restants du Mali au Niger, il a bien l'air d'être optimiste. Il n'y a aucun doute que le peuple nigérian ne les laissera pas faire comme ça. Le Mali a ordonné le départ dans un délai de 72 heures de toutes les forces étrangères présentes sur la base de la société Sahel Aviation Service de l'aéroport de Bamako, un ultimatum qui intervient quelques semaines après l'arrestation des 49 mercenaires ivoiriens liés à cette base. Selon un courrier officiel des aéroports du Mali à Sass, daté de lundi, Toutes les forces étrangères présentes sur la base de la SAS dans l'enceinte de l'aéroport de Bamako doivent la quitter dans un délai de 72 heures. L'hébergement et l'accueil de soldats étrangers sur cette base engendrent des risques pour la sûreté intérieure et extérieure du Mali, comme l'a souligné la même source, notant qu'il n'était pas prévu dans la convention d'utilisation de ladite base signée en 2018. La base de SAS à l'aéroport de Bamako sert de base logistique pour plusieurs partenaires internationaux du Mali, parmi lesquels des soldats ivoiriens, mais aussi des soldats allemands, autrichiens, belges, suédois ou encore pakistanais, déployés au sein de missions internationales, notamment l'ONU, a dit mi-juillet l'état-major ivoirien. L'arrestation le 10 juillet au Mali de 49 d'entre eux à l'aéroport de Bamako, déployés selon Abidjan dans le cadre d'une procédure de l'ONU en soutien de leur contingent, tandis que le Mali les a qualifiés de mercenaires et l'ONU a nié donc avoir tout lien avec ces 49 soldats, et ceci a déclenché une crise diplomatique entre Bamako, Abidjan et l'ONU. Le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali a été expulsé, avoir été accusé par Bamako d'avoir publié des fausses informations sur cette affaire le 11 juillet. Car en effet, au début, l'ONU avait nié avoir des liens avec ces 49 mercenaires, et soudain, cette instance a changé de version. Le rôle exact de ces soldats arrêtés et toujours détenus reste tout de même flou. Ils étaient donc, selon Abidjan, des éléments nationaux de soutien, une procédure de l'ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. Une médiation a été lancée par le Togo à Lomé pour trouver une solution rapide à cette situation. Il est évident que le fait de mettre dehors les forces étrangères de cette base aérienne est un grand pas en avant pour anticiper les nombreuses tentatives à venir de déstabilisation du Mali par des tierces étrangers, comme par exemple la France. Et les propos d'Emmanuel Macron concernant le Mali lors de sa mini-tournée en Afrique de l'Ouest étaient clairs. Paris continue d'œuvrer pour trouver un moyen de déstabiliser le Mali avec l'aide des États-Unis. Le porte-parole du gouvernement malien avait également déclaré que la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un des objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Et il convient enfin de rappeler avec force que les vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnels, républicains et résolument engagés, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble des concitoyens, donc maliens, dans leur diversité ethnique et religieuse. Et avec ceci, il est bien évident que les forces étrangères n'ont plus du tout de place au Mali.
Le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Brune Baratz, est venu mardi 2 août remercier le président du Niger pour le soutien qu'il apporte à l'armée française dans son retrait du Mali. Le déplacement de convois militaires au Sahel est toujours risqué. En novembre 2021, en sens inverse, des véhicules militaires partis d'Abidjan pour Gao avaient été bloqués par des manifestants. Tout est mis en œuvre pour que le dernier soldat français ait quitté le Mali dans les semaines qui viennent. Le but étant aussi de réduire de moitié la présence française dans la région, désormais limitée à 2 500 hommes répartis entre le Niger et des pays du Golfe de Guinée. La France n'a d'ailleurs pas d'autre choix. Comptons-nous des relations exécrables entre Paris et Bamako. Il y a 3 jours encore, la junte au pouvoir au Mali s'en est pris directement à Emmanuel Macron pour exiger du président français qu'il abandonne sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Les fêtes se sont déroulées dans la nuit du 17 au 18 juillet. La piste du motif crapuleux est privilégiée par les enquêteurs. Un Français a été tué par balle mi-juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a appris France Info, mercredi 3 août, de sources proches de l'enquête. Les fêtes se sont déroulées dans la nuit du 17 au 18 juillet. Vers 1h du matin, cet homme originaire de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, rentrait d'un dîner en voiture, accompagné d'un ami. Arrivé près du domicile du Breton, les deux hommes sortent leur véhicule quand deux individus arrivent en deux roues. L'un des deux, porteur d'une arme, fait feu à 3 reprises sur la victime. Il lui vole alors son portefeuille ainsi que les clés de sa voiture et de son domicile. Son ami n'a pas été touché par les tirs. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, a précisé le parquet de Paris à France Info. Les investigations ont été confiées à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, au CRVP. Le parquet a fait une demande d'entraide pénale internationale. Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste du motif crapuleux est privilégiée. L'homme, âgé de 31 ans, était ingénieur. Il travaillait depuis près de 5 ans à Abidjan pour le compte de Bouygues Construction. Il participait à la construction du métro de la ville. Un accord d'achat d'électricité vient d'être signé entre les compagnies publiques Ethiopian Electric Power, EEP, et Kenya Power. Le partenariat qui entre en vigueur vise l'importation d'électricité propre produite en Éthiopie vers le Kenya. Les relations entre le Kenya et l'Éthiopie se renforcent sur le plan énergétique. Les compagnies publiques d'électricité des deux pays d'Afrique de l'Est s'engagent dans la vente d'électricité au Kenya. L'accord irrelatif a été signé récemment entre les responsables d'Ethiopian Electric Power et de Kenya Power. Selon les termes de l'accord qui entre en vigueur le 1er novembre 2022, au cours des 3 premières années, le Kenya disposera d'une capacité maximale ferme de 200 MW. Pour les années suivantes, l'accord de 25 ans prévoit l'achat par le Kenya d'une capacité maximale ferme de 400 MW. Le Kenya est le pays africain avec le mix électrique le plus diversifié. Sa compagnie publique, Kenya Power, distribue en effet de l'électricité produite par des centrales solaires, géométriques, éoliennes, hydroélectriques, ainsi que la biomasse. L'Éthiopie veut devenir le plus grand exportateur d'électricité en Afrique de l'Est à travers des investissements dans les énergies renouvelables. Au cours des 10 prochaines années, Addis Abeba prévoit en effet d'investir 40 milliards de dollars dans géothermie, l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité. Le pays vise ainsi une capacité à installer de 35 000 MW d'ici 2037. Une bonne partie de cette électricité sera vendue dans les pays de la Corne de l'Afrique. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu mercredi 3 août à Alger Madame Aïcha Mohamed Garba, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès de l'Algérie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. L'audience qui s'est déroulée au siège du ministère a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et les perspectives prometteuses de leur renforcement sur les plans politiques et économiques, ainsi que les questions d'actualité au niveau continental et international, précise le communiqué. Dans ce cadre, M. Lamamra a souhaité la bienvenue à la nouvelle chef de l'ambassade du Nigeria en Algérie, lui exprimant ses vœux de réussite dans sa mission qui intervient dans un contexte marqué par une dynamique positive de la coopération bilatérale et l'approfondissement de l'engagement conjoint des deux pays sur la scène continentale au service des causes et intérêts de l'Afrique. De son côté, Mme Aïcha Mohamed Garba a souligné l'attachement de son pays à la consolidation de ses relations stratégiques avec l'Algérie, notamment dans le domaine de l'énergie, en mettant en exergue l'importance du renforcement du partenariat algéro-nigérian dans le sillage des développements en cours sur la scène internationale et leurs répercussions sur le continent africain.